Chapitre 10. Chapitre qui, quoique fort court, pourra tirer des larmes de quelques yeux. Monsieur Jones venait de s'habiller pour se rendre chez Lady Ballaston quand Mrs. Miller frappa à sa porte. Jones la lui ouvrit, et elle le pria instamment de descendre pour venir prendre le thé avec elle dans le parloir. Il descendit, et dès qu'il fut entré, elle lui présenta une personne qui s'y trouvait en lui disant « Monsieur, voici mon cousin qui doit tant à votre bonté, et désire vous en témoigner la plus vive reconnaissance. » Cet homme avait à peine ouvert la bouche, que Jones et lui, se regardant fixement, témoignèrent tous deux au même instant la plus grande surprise. La voix de ce dernier lui manqua. Il se laissa tomber sur une chaise en s'écriant « cela est vrai, j'en suis convaincu. » « Bonté du ciel, que veut dire cela ? » s'écria Mrs. Miller. « Vous ne vous trouvez pas mal, mon cousin, j'espère. De l'eau, des sels sur le champ. »« Ne vous effrayez point, madame, » dit Jones, « j'ai presque autant besoin de sel que votre cousin. » »« Nous sommes également surpris de cette rencontre inattendue. »« Votre cousin est un de mes amis, Mrs. Miller. »« Un de vos amis ? » s'écria l'homme. « Oh, ciel !»« Oui, un de mes amis, » répéta Jones, « et j'ajoute que je m'en fais honneur. » »« Dès que je cesserai d'aimer et d'honorer l'homme » qui ose tout braver pour sauver sa femme et ses enfants d'une mort prochaine, puissé-je avoir un ami qui m'abandonne dans l'adversité. « Oh, vous êtes un excellent jeune homme !» s'écria Mrs. Miller. « Oui, véritablement, le pauvre homme, il a tout bravé. S'il n'avait pas eu l'une des plus fortes constitutions, il se serait tué infailliblement. « Ma cousine, » s'écria l'homme qui était revenu de sa surprise, « voici l'ange du ciel dont je vous ai parlé. C'est lui à qui... « Avant que je vous eusse vu, je dois la conservation de ma chère Peggy. C'est à sa générosité que j'ai dû tous les secours et toutes les douceurs que je lui ai procurées. C'est, je vous assure, le plus digne, le plus brave et le plus noble de tous les hommes. Oh, ma cousine, je lui ai des obligations d'une telle nature !»« Ne parlez point d'obligations, » s'écria Jones en l'interrompant sur le champ. « Pas un mot, je l'exige, pas un mot. » craignant, je suppose, qu'il ne révélât l'affaire du vol. Si par la bagatelle que vous avez reçue de moi, j'ai sauvé une famille entière, jamais, assurément, un aussi grand plaisir ne fut acheté à si bon marché. « Oh, monsieur, » s'écria l'homme, « je souhaiterais que vous puissiez voir à présent ma famille. Si quelqu'un eut jamais des droits au plaisir dont vous parlez, c'est vous, sans doute. Ma cousine m'a dit qu'elle vous avait instruit de la détresse dans laquelle elle nous a trouvés. Cette détresse, monsieur, a totalement disparu, et c'est surtout grâce à votre bonté. Mes enfants ont maintenant un lit pour se coucher, et ils ont, que les bénédictions éternelles vous en récompensent, ils ont du pain à manger. Mon petit enfant est rétabli, ma femme est hors de danger, et je suis heureux. Tout cela, je vous le dois, monsieur, et à ma cousine ici présente, qui est la meilleure des femmes. « Oui, monsieur, il faut absolument que je vous voie chez moi. Il faut absolument que ma femme vous voie et vous remercie. Il faut aussi que mes enfants vous témoignent leur reconnaissance. Croyez, monsieur, qu'ils ont le sentiment de leurs obligations envers vous. Mais je reste confondu moi-même quand je réfléchis à qui je suis redevable de ce que ces pauvres enfants sont maintenant en état de vous témoigner leur reconnaissance. Oh, monsieur, ces jeunes cœurs que vous avez réchauffés seraient maintenant froids comme la glace, sans les secours que vous nous avez donnés. » Jones essaya ici d'empêcher le pauvre homme de continuer, mais son cœur trop oppressé aurait suffi pour le contraindre à garder le silence. Ce fut Mrs. Miller qui accabla à son tour Jones de remerciements, tant en son propre nom qu'en celui de son cousin. Elle finit en disant qu'elle ne doutait pas que tant de bonté n'obtînt quelque jour une glorieuse récompense. Jones répondit qu'il avait déjà été suffisamment récompensé. « Le récit de votre cousin, madame, ajouta-t-il, m'a procuré la sensation la plus agréable que j'ai encore connue. Il faudrait être un bien méchant homme pour ne pas en être touché. Combien donc doit être ravissante la pensée d'avoir pu heureusement jouer un rôle dans une pareille scène. S'il y a des âmes assez mal organisées pour ne pas sentir le plaisir de rendre les autres heureux, je les plains sincèrement, comme étant incapables de sentir ce qui, selon moi, est un grand honneur, un intérêt plus puissant et un plaisir plus délicieux que n'en peuvent jamais procurer l'ambition, l'avarice ou la volupté. » L'heure du rendez-vous étant arrivée, Jones fut forcé de quitter la compagnie précipitamment. Mais non avant d'avoir serré cordialement la main de son ami et lui avoir témoigné le désir de le revoir le plus tôt possible, lui promettant de saisir lui-même la première occasion d'aller lui rendre visite chez lui. Il monta alors dans sa chaise et se rendit chez Lady Bellaston, ne se sentant pas de joie du bonheur qu'il avait procuré à cette pauvre famille. Il ne put cependant s'empêcher de réfléchir avec un sentiment d'horreur aux terribles conséquences qui s'en seraient suivies s'il avait plutôt écouté la voix de la justice que celle de la pitié quand il avait été attaqué sur la grande route. Mrs. Miller chanta hautement les louanges de Jones toute la soirée, et M. Anderson, pendant tout le temps qu'il resta chez elle, joignit sa voix à la sienne avec tant de chaleur qu'il fut souvent sur le point de révéler la circonstance du vol. Cependant, il se contint heureusement et évita une indiscrétion qui eût été d'autant plus grande qu'il connaissait Mrs. Miller pour avoir des principes non moins délicats que sévères. Il connaissait aussi le défaut qu'elle avait d'être un peu bavarde. Tel était cependant l'excès de sa reconnaissance qu'elle faillit l'emporter sur la prudence et sur la honte, et lui faire publier ce qu'il aurait diffamé lui-même, plutôt que d'omettre une circonstance qui était si honorable à son bienfaiteur. Chapitre 11. Qui surprendra le lecteur. M. Jones avait un peu devancé l'heure du rendez-vous, et était arrivé plus tôt que la dame, dont le retour avait été retardé, non seulement par l'éloignement du lieu où elle avait dîné, mais par quelques autres accidents fâcheux, bien faits pour faire donner au diable quelqu'un qui se trouvait dans sa position. Suivant les ordres qu'elle avait laissés, il fut introduit dans le salon, où il n'était pas depuis 10 minutes lorsque la porte s'ouvrit, et qu'il vit paraître Sophie elle-même, qui avait quitté le spectacle avant la fin du premier acte. Car, comme nous l'avons déjà dit, c'était une pièce nouvelle, à laquelle se trouvaient deux parties en présence, l'un pour siffler, l'autre pour applaudir, ce qui avait causé un si violent tumulte et engagé un combat si vif que notre héroïne, effrayée, s'était trouvée heureuse de se mettre sous la protection d'un jeune homme qui l'avait conduite sans accident à sa chaise à porteur. Comme Lady Bellaston avait dit à Sophie qu'elle ne rentrerait que tard, celle-ci, s'attendant à ne trouver personne dans le salon, y entra précipitamment et alla droit à une glace qui se trouvait presque en face d'elle, sans jeter un seul regard vers l'autre bout de la salle, où la statue de Jones était alors immobile. Ce fut dans cette glace qu'après avoir contemplé sa charmante figure, elle aperçut tout d'un coup la susdite statue, se retourna aussitôt, et convaincue de la réalité de sa vision, jeta un cri perçant. Elle était prête à s'évanouir lorsque Jones reprit le mouvement pour courir à elle et la soutenir dans ses bras. Peindre les regards, dire les pensées de ces deux amants n'est pas en mon pouvoir. Leur silence mutuel, pouvant faire juger que leurs sensations étaient trop vives pour qu'ils pussent les exprimer, on ne peut pas supposer que cet effort me soit possible. Le malheur est que peu de mes lecteurs ont été assez passionnément amoureux pour sentir par leur propre cœur ce qui se passa alors dans celui de mes deux héros. Après un moment, Jones, d'une voix tremblante, dit à Sophie « Je vois, madame, que vous êtes surprise. »« Surprise ? » répondit-elle. « Oh, Dieu, oui, sans doute, je suis surprise. Je doute presque si vous êtes en effet la personne que vous semblez être. »« Oh oui, » s'écria-t-il. « Oui, ma Sophie. » Pardonnez-moi, madame, d'avoir osé vous donner encore une fois ce nom. Je suis ce même Jones, ce malheureux que la fortune, après une si grande multitude de traverses, a enfin conduit charitablement près de vous. Oh, ma Sophie, si vous connaissiez les 1000 et 1000 tourments que j'ai souffert dans cette longue et inutile recherche. Recherche de qui ? Dit Sophie, se remettant un peu et prenant un air réservé. « Pouvez-vous être assez cruel pour me faire cette question ?» s'écria Jones. « Ai-je besoin de vous dire que c'est vous que je cherchais ?»« Moi ?» répondit Sophie. « Quelle est donc l'affaire importante que M. Jones avait à traiter avec moi ?»« Madame, » dit Jones en lui remettant le portefeuille, « quelques personnes pourraient appeler ceci une affaire importante. J'espère, madame, que vous le retrouverez dans le même état que lorsque vous l'avez perdu. » Sophie prit le portefeuille, et allait parler lorsqu'il continua en ces termes. « Je vous en supplie, madame, ne perdons point un de ces moments précieux que la fortune a bien voulu nous accorder. Oh, ma Sophie, j'ai une affaire d'une importance infiniment plus grande. Souffrez que je vous demande mon pardon à genoux. »
Votre pardon? S'écria-t-elle.
Assurément, monsieur, après ce qui s'est passé, vous ne pouvez vous attendre, après ce que j'ai entendu dire.
Je sais à peine ce que je dis, répondit Jones. J'en atteste le ciel. Je ne sais pas bien même si je désire que vous me pardonniez.
Oh, ma Sophie, ne souffrez jamais que votre pensée s'arrête sur un malheureux tel que moi. Si j'ai pu causer un seul moment de peine à ce cœur sensible, songez que je suis indigne de vous, et que le souvenir de ce qui s'est passé à Hampton m'efface à jamais du cœur de Sophie. Sophie était pâle, faible et tremblante pendant tout ce discours, et l'on voyait son cœur palpiter à travers ses vêtements. Mais au nom d'Hampton, la rougeur vint animer ses joues, et ses yeux, qu'elle avait tenus presque toujours baissés jusque-là, se tournèrent sur Jones avec le dédain le plus marqué. Il entendit ce reproche muet et y répondit ainsi. « Ô ma Sophie, ô mon unique amour, vous ne pouvez me haïr ni me mépriser plus que je ne me hais et ne me méprise moi-même pour ce qui s'est passé. Mais rendez-moi la justice de croire que mon cœur ne vous fut jamais infidèle, qu'il n'eut jamais de part à la folie dont je me suis rendu coupable. Il était même alors irrévocablement à vous. Quoique je désespérasse de vous posséder, même de vous revoir jamais, j'adorais encore votre image charmante, et ne pouvais sérieusement aimer une autre femme. Mais quand même mon cœur n'eût pas été engagé, celle dans la compagnie de laquelle le hasard m'a jeté dans cette maudite auberge n'était pas une femme qu'on pût aimer sérieusement. Croyez-moi, mon ange, je ne l'ai point revue depuis ce jour fatal, et je n'ai ni le projet ni le désir de la revoir. Sophie, dans le fond de son cœur, était charmée d'entendre cet aveu. Mais, forçant son visage à prendre un air plus froid encore qu'auparavant, « Pourquoi, monsieur Jones, lui dit-elle, prenez-vous la peine de vous défendre, quand vous n'êtes point accusé? Si je daignais vous accuser, j'aurais à vous reprocher une offense d'une nature assurément impardonnable. » « Laquelle, au nom du ciel ?» répondit Jones, pâle et tremblant, s'attendant à se voir reprocher son intrigue avec Lady Bellaston.
« Oh, dit-elle, comment est-il possible que tout ce qu'il y a de noble, tout ce qu'il y a de vil, habite ensemble dans le même cœur ?»
Lady Bellaston et le genre de bienfaits qu'il en avait reçus se représentèrent à son esprit et l'empêchèrent de répliquer. « Aurais-je pu m'attendre, continua Sophie, à un pareil traitement de votre part, je dis même de la part d'un homme bien élevé, de la part d'un homme d'honneur, avoir profané mon nom en public ?» dans des auberges, devant la plus vile populace, si être vanté de quelques faveurs sans conséquence que mon cœur trop facile a pu consentir légèrement à vous accorder. Enfin, avoir été jusqu'à dire que vous aviez été forcé de vous dérober à mon amour. Rien ne peut égaler la surprise de Jones en entendant ces reproches de Sophie. Mais comme il n'était pas coupable, il fut moins embarrassé de se défendre que si elle eût touché cette corde délicate qui avait alarmé sa conscience. Après un moment de réflexion, il n'eut pas de peine à deviner qu'un outrage aussi grand envers l'amour et tendant à compromettre la réputation de Sophie était la suite du bavardage de Partridge dans les auberges en présence des maîtres et des valets, et Sophie lui avoua que c'était d'eux en effet qu'elle avait reçu ses instructions. Il trouva peu de difficulté à lui faire croire qu'il était tout à fait innocent d'une offense si éloignée de son caractère. Mais elle en eut beaucoup à l'empêcher de retourner à l'instant chez lui pour tuer Partridge, projet qu'il fit plus d'une fois le serment d'exécuter. Ce point une fois éclairci, ils furent bientôt si charmés l'un de l'autre que Jones oublia tout à fait qu'il avait commencé la conversation en la conjurant de l'oublier entièrement, et qu'elle se trouva dans une disposition à accueillir une demande d'un genre très différent, car, avant qu'ils s'en fussent aperçus, ils avaient fait tous deux tant de chemin qu'il laissa échapper quelques mots qui ressemblaient beaucoup à une proposition de mariage. Ce à quoi elle répondit que si son respect pour son père ne l'empêchait pas de suivre sa propre inclination, l'indigence avec lui lui paraîtrait préférable à la plus brillante fortune avec un autre. À ce mot d'indigence, il tressaillit, laissa aller la main de Sophie qu'il tenait entre les siennes,
et s'écria en se frappant la poitrine, « Oh, Sophie, qui, moi, je pourrais vous réduire à la misère ? Non, j'en atteste le ciel. Non, je ne commettrai jamais une action aussi vile. Ma très chère Sophie, quoi qu'il m'en coûte, je renoncerai à vous, je vous abandonnerai, j'arracherai de mon cœur toutes mes espérances les plus flatteuses comme incompatibles avec votre bonheur réel. Je conserverai mon amour, mais il gardera le silence, il vivra loin de vous, il restera dans une espèce de terre étrangère, d'où ni les accents ni les soupirs de mon désespoir ne pourront jamais atteindre ni importuner votre oreille. Et quand je ne serai plus... » Il allait continuer, mais il fut interrompu par un torrent de larmes dont Sophie inondait sa poitrine, sur laquelle elle était appuyée, sans pouvoir proférer une seule parole. Il les essuya avec 1000 baisers qu'elle souffrit sans résistance pendant quelques moments. Mais se remettant ensuite, elle se retira doucement de ses bras. Et pour détourner la conversation qui avait roulé sur un sujet trop tendre, et qu'elle sentait bien qu'elle ne pourrait supporter, elle s'avisa d'une question qu'elle n'avait pas encore eu le temps de lui faire. Ce fut de lui demander comment il était venu dans ce salon. Il commençait à bégayer, et très probablement eut excité ses soupçons par la réponse qu'il allait lui faire, lorsqu'on vit tout à coup la porte s'ouvrir et Lady Bellaston paraître. Après avoir avancé quelques pas, la dame, voyant Jones et Sophie ensemble, s'arrêta soudain. Quelques moments après, se remettant avec une admirable présence d'esprit, quoique sa voix et son maintien témoignassent assez sa surprise, elle dit à Sophie, « Je croyais, Miss Weston, que vous étiez allée au spectacle. » Quoique Sophie n'eût pas eu le temps d'être instruite par Jones de la manière dont il avait découvert sa demeure, comme elle n'avait pas le moindre soupçon de la vérité, et ignorait que Jones et Lady Bellaston se connussent, elle fut très peu embarrassée, et d'autant moins que dans toute leur conversation au sujet de son père, la dame avait toujours pris parti contre lui. Elle lui conta donc, sans presque hésiter, toute l'histoire de ce qui s'était passé au spectacle et la cause de son retour précipité. La longueur de ce récit donna à Lady Bellaston le temps de reprendre tout à fait ses esprits et de réfléchir à la manière dont elle se conduirait en cette circonstance. Comme la conduite de Sophie lui donnait l'espoir que Jones ne l'avait pas trahi, elle affecta un air de gaieté et dit « Je ne serais pas entrée si brusquement, Miss Weston, si je vous avais su en compagnie. » Lady Bellaston fixa les yeux sur Sophie en prononçant ces derniers mots, auxquels la pauvre jeune personne, le visage couvert de rougeur et de confusion, répondit en bégayant « Je puis vous assurer, madame, que je regarderai toujours l'honneur de votre compagnie. « J'espère au moins, dit Lady Bellaston en l'interrompant, que je ne vous empêche pas de continuer votre entretien. »« Non, madame, répondit Sophie, notre entretien était fini. »« Si vous voulez avoir la bonté de vous en souvenir, je vous ai souvent parlé de la perte de mon portefeuille. »« Monsieur, l'ayant trouvé, a été assez bon pour me le remettre avec le billet qu'il contenait. » Depuis l'arrivée de Lady Bellaston, Jones se sentait à chaque instant prêt à s'évanouir de frayeur. Il se frappait les talons contre le pied du fauteuil sur lequel il était assis, jouait avec ses doigts, et avait l'air plus imbécile, s'il est possible, qu'un jeune bonnet de gentilhomme campagnard présenté pour la première fois dans un cercle brillant. Il commença cependant à se remettre un peu, et, averti par la conduite de Lady Bellaston, qui évidemment ne voulait pas avoir l'air de le connaître, il prit aussi le parti de jouer de son côté le rôle d'un homme qui lui était tout à fait étranger, et dit que depuis qu'il avait le portefeuille en sa possession, il avait fait toutes les diligences possibles pour s'informer où logeait la dame dont le nom était écrit dessus, mais que jusqu'à ce jour, il n'avait pas été assez heureux pour découvrir sa demeure. Sophie avait en effet parlé à Lady Bellaston de la perte de son portefeuille. Mais comme Jones, pour je ne sais quelle raison, ne lui avait pas dit une seule fois qu'il fût en sa possession, elle ne crut pas un mot de ce que Sophie venait de dire, et admira la merveilleuse promptitude de cette jeune personne à inventer une semblable excuse. Le motif de Sophie pour quitter le spectacle ne lui inspira pas plus de confiance, et quoiqu'elle ne pût expliquer la rencontre de ces deux amants, elle demeura fermement persuadée qu'elle n'était pas un effet du hasard. Elle dit donc avec un sourire affecté, « Il faut convenir, Miss Weston, que vous avez été bien heureuse de retrouver votre argent. Non seulement en ce qu'il est tombé entre les mains d'un homme d'honneur, mais encore en ce que le hasard lui a fait découvrir à qui il appartenait. Car probablement, vous n'avez pas voulu qu'on en parlât dans les affiches. En vérité, monsieur, vous avez été bien heureux d'avoir deviné à qui appartenait le billet. « Oh, madame, répondit Jones, rien n'était moins difficile. Il était renfermé dans un portefeuille où le nom de mademoiselle était écrit. « C'est assurément un très grand bonheur, répéta Lady Ballaston. Et ce qui n'en est pas un moins étonnant, c'est que vous ayez pu être instruit que Miss Weston était logée chez moi, car elle est très peu connue. » Jones avait eu le temps de reprendre tout à fait ses esprits, et voyant qu'il avait alors une occasion de répondre à la question que Sophie lui faisait au moment où Lady Ballaston était entrée, il continua ainsi. « Vous avez raison d'être étonnée, madame. Ce fut par le plus heureux hasard du monde que je fis cette découverte. L'un de ces derniers jours, au bal, je parlais de ce portefeuille que j'avais trouvé, et je venais de nommer la personne à qui il appartenait, lorsque la dame qui m'écoutait me dit qu'elle croyait savoir où je pourrais trouver Miss Weston, et que si je voulais venir le lendemain matin chez elle, elle m'en informerait. Je m'y suis rendu, mais elle n'y était pas, et ce n'est que ce matin que j'ai pu la rencontrer. Elle m'a indiqué, madame, votre maison. J'y suis venu, et j'ai eu l'honneur de vous demander. Sur ce que j'ai dit qu'il s'agissait d'une affaire très importante, un domestique m'a introduit dans ce salon, où je venais à peine d'entrer lorsque mademoiselle est revenue du spectacle. En parlant du bal, il regarda finement Lady Ballaston, sans craindre d'être remarqué par Sophie, qui était évidemment trop troublée pour faire aucune observation. Ce regard alarma un peu la dame, et elle garda le silence. John, cependant, voyant combien le cœur de Sophie était agité, prit le seul moyen qui fut en son pouvoir pour lui rendre quelque tranquillité et se retira. Mais avant de quitter le salon, il dit à Lady Ballaston, « Je crois, madame, qu'il est d'usage d'accorder quelques récompenses en pareille occasion. J'en exige une très considérable. Ce n'est rien moins, madame, que l'honneur d'être admis à vous faire ma cour une autre fois. » Monsieur, répondit Milady, je ne doute point que vous ne soyez un homme bien né. Ma porte n'est jamais fermée aux gens comme il faut. Après les politesses ordinaires, John se retira à sa grande satisfaction, et non moins à celle de Sophie, qui était terriblement alarmée que Lady Ballaston ne découvrît ce que celle-ci ne savait déjà que trop bien. Jones rencontra sur l'escalier sa vieille connaissance Mrs. Honora, qui, malgré tout ce qu'elle avait dit contre lui, se conduisit alors à son égard avec beaucoup de politesse et d'honnêteté. Cette rencontre fut une circonstance heureuse pour lui, en ce qu'elle lui procura l'occasion d'indiquer à Mrs. Honora la maison où il logeait et que Sophie connaissait parfaitement bien. Chapitre 12, qui termine le 13e livre. L'élégant Shaftesbury assure quelque part qu'il ne faut pas toujours dire l'exacte vérité, d'où l'on peut conclure avec la même candeur que dans quelques cas il est non seulement excusable, mais encore louable de mentir. Et assurément personne ne peut réclamer un droit plus incontestable à cette louable déviation du chemin de la vérité que les jeunes femmes en matière d'amour. Car elles peuvent alléguer en leur faveur les préceptes qui leur ont été inculqués, l'éducation qu'elles ont reçue, la sanction, je puis dire même l'autorité de l'usage qui leur interdit non de résister aux impulsions honnêtes de la nature, il y aurait de la folie à l'exiger, mais de convenir qu'elles y ont cédé. Nous ne rougissons donc point d'avouer que notre héroïne suivit alors la maxime du très honorable philosophe que nous venons de citer. Car, parfaitement convaincue que Lady Ballaston ne connaissait pas la personne de Jones, elle se détermina à la laisser dans cette ignorance, quoiqu'il lui en coûtât un petit mensonge. Jones venait à peine de sortir que Lady Ballaston s'écria « Sur ma parole, c'est un fort joli jeune homme. Je suis étonné de ne pas le connaître. Je ne me souviens pas de l'avoir jamais vu. » « Ni moi non plus, madame, répondit Sophie. Je dois convenir qu'il s'est parfaitement bien conduit, relativement à mon billet. » « Oui, sans doute, et c'est un bien beau jeune homme, répéta Milady ne le pensez-vous pas ?
Je n'y ai pas fait beaucoup d'attention, répliqua Sophie. Ce que j'ai cru voir, c'est qu'il avait l'air gauche d'un homme accoutumé à vivre à la campagne.
Vous avez parfaitement raison, dit Lady Bellaston. Vous pouvez avoir jugé par ses manières qu'il n'a jamais vu la bonne compagnie.
Je dis plus, quoiqu'il vous ait rendu votre billet et qu'il ait refusé d'en recevoir la récompense, je doute presque que ce soit un homme bien né. J'ai toujours remarqué qu'il y a dans les personnes comme il faut quelque chose que les autres ne peuvent jamais acquérir. Je crois que je ferai dire à la porte que je n'y suis pas pour lui.
Cependant, madame, répondit Sophie, certainement on ne peut le soupçonner après ce qu'il a fait. De plus, si vous l'aviez observé, vous auriez reconnu qu'il y a dans son langage une élégance, une délicatesse, un charme d'expression qui...
J'avoue, dit Lady Bellaston, qu'il a employé en effet quelques mots. Et cependant, Sophie, il faut que vous me pardonniez, il le faut absolument.
Que je vous pardonne, madame, dit Sophie.
Oui, que vous me pardonniez, répondit-elle en riant, car en entrant dans le salon, j'ai soupçonné d'abord, c'est horrible en vérité, oh, il faut absolument que vous me le pardonniez. J'ai soupçonné que c'était M. Jones lui-même.
Quoi, vraiment, vous auriez eu un pareil soupçon ? S'écria Sophie, rougissant et affectant de rire.
Rien n'est plus vrai, je vous assure, répondit-elle. Je ne saurais imaginer ce qui m'a mis cela dans la tête, car il faut convenir qu'il était proprement mis. Et je crois, ma chère Sophie, que ce n'est pas communément le cas où se trouve votre ami.
Cette raillerie est un peu cruelle, milady, répliqua Sophie, après la promesse que je vous ai faite.
Pas du tout, mon enfant, reprit Lady Bellaston. Elle eût été cruelle auparavant, mais depuis que vous m'avez promis de ne jamais vous marier sans le consentement de votre père, ce qui suppose votre renoncement absolu à ce Jones, vous pouvez assurément supporter une petite plaisanterie sur une passion que l'on pouvait pardonner jusqu'à un certain point à une jeune fille qui n'a jamais habité que la campagne et que vous m'assurez avoir si complètement surmontée.
Que dois-je penser, ma chère Sophie, si vous ne pouvez souffrir un petit ridicule qui ne porte que sur sa manière de se mettre?
Je commence à craindre que vous ne soyez engagée avec lui plus que je ne l'avais cru, et je doute en vérité que vous ayez été de bonne foi avec moi.
Assurément, madame, dit Sophie, vous vous trompez beaucoup sur mon compte, si vous imaginez que je prenne le moindre intérêt à lui.
À lui, répondit Lady Bellaston, vous m'avez sûrement mal comprise. Je n'ai pas parlé d'autre chose que de la manière dont il était mis, car je ne voudrais pas blesser votre goût par une autre comparaison. Je n'imagine pas, ma chère Sophie, que si votre Monsieur Jones eût ressemblé à celui-ci...
Je croyais, dit Sophie, vous avoir entendu avouer qu'il était fort bien de sa personne.
Qui, je vous prie, s'écria Lady Bellaston en l'interrompant.
Monsieur Jones, répondit Sophie.
Et se reprenant aussitôt, Monsieur Jones, non, non, je vous demande pardon, je veux dire ce jeune homme qui était tout à l'heure ici.
Oh, Sophie, Sophie, s'écria Lady Bellaston, ce Monsieur Jones, j'en ai bien peur, vous roule encore dans la tête.
Sur mon honneur, madame, dit Sophie, je vous proteste que Monsieur Jones m'est tout aussi indifférent que le jeune homme qui vient de nous quitter.
Sur mon honneur, répéta Lady Bellaston, je le crois.
Pardonnez-moi donc une petite raillerie bien innocente. Je vous promets de ne plus prononcer son nom.
Ici, les deux dames se séparèrent, infiniment plus à la satisfaction de Sophie que de Lady Bellaston, qui aurait de tout son cœur tourmenté sa rivale un peu plus longtemps, si une affaire plus importante ne l'eût appelée ailleurs. Quant à Sophie, son cœur n'était pas parfaitement tranquille après ce premier essai de fausseté. En se retirant dans sa chambre, elle y réfléchit avec autant d'inquiétude que de honte. La difficulté particulière de sa situation, l'impérieuse nécessité où elle s'était trouvée, ne pouvait sous aucun rapport justifier sa conduite à ses propres yeux. Son cœur était trop pur et trop délicat pour supporter la pensée d'avoir été coupable d'un mensonge, quoique suffisamment excusée par les circonstances. Cette pensée ne lui permit pas de fermer l'œil pendant toute la nuit suivante. Fin du livre 13e.